Pourquoi parle-t-on d'égalité professionnelle sans jamais parler de santé des femmes au travail ? Peut-on vraiment défendre l'égalité salariale, l'accès aux postes à responsabilité, la performance durable, sans regarder l'impact du cycle, de la maternité, de la ménopause sur les parcours professionnels ? Pourquoi ces réalités biologiques et sociales restent-elles encore reléguées à la sphère privée ? Et si le véritable enjeu d'égalité commençait là ? Managers, DRH, dirigeants, salariés, sommes-nous prêts à considérer la santé des femmes non pas comme une question individuelle, mais comme un sujet stratégique d'organisation et de justice sociale ? Bienvenue dans le podcast de l'association Didam Donc. Cette saison s'intitule « Santé des femmes au travail, un enjeu d'égalité professionnelle ». 6 épisodes pour questionner nos pratiques, écouter les réalités vécues et donner des leviers concrets à celles et ceux qui veulent faire progresser l'égalité professionnelle. Et pour ce deuxième épisode, nous sommes avec Loïc Lerouge. Bonjour Loïc.
Bonjour, bonjour à toutes et tous.
Loïc Lerouge, vous êtes donc directeur de recherche au CNRS, membre du Centre de droit comparé du travail et de la sécurité sociale. Vous êtes un spécialiste du thème de la santé au travail. Vous portez une chaire internationale d'études comparées de la santé au travail et vous co-dirigez le laboratoire international interdisciplinaire associé entre l'Université de Bordeaux et l'Université de Laval au Québec sur les transitions environnementales, le travail et la santé. On va donc se demander aujourd'hui si l'égalité professionnelle passait aussi, finalement, et même peut-être d'abord, par l'égalité en matière de santé au travail. Merci beaucoup à vous d'être avec nous. Une première question, vous dites souvent que la santé au travail, c'est une question de justice sociale. Pourquoi ?
La règle de droit va organiser des droits et des obligations en termes d'égalité, de non-discrimination en termes de santé. Peu importe le genre, peu importe la condition. Parce que la santé est quelque chose qui nous est propre, tout en étant quelque chose qui nous relie, puisque nous avons tous une santé. Donc c'est une affaire de justice sociale, parce que la santé est protégée en dehors du travail, et la protection de la santé ne s'arrête pas à la frontière du travail, à la frontière du genre, à la frontière du statut ou des conditions. Elle continue à exister et doit, à ce titre-là, être protégée.
En quoi est-ce que le système actuel, il est masculinisé ? C'est les mots que vous employez.
Alors j'emploie ce mot-là parce que le système de prévention en santé sécurité au travail est d'abord conçu, historiquement aussi, en fonction d'un modèle masculin et ne prend pas en compte les spécificités de genre des femmes en termes biologiques et en termes de capacité à exercer certaines tâches qui sont, de ce fait, plus dangereuses pour elles que pour des hommes.
Par exemple, est-ce qu'on peut rappeler quelques spécificités biologiques qui seraient particulièrement intéressantes dans ce cadre de santé au travail ?
Alors, des spécificités biologiques sont celles que tout le monde connaît, en ce qui concerne les questions de taille, les questions de port de charge, mais aussi les questions de santé reproductive, de santé sexuelle aussi, qui peuvent être abîmées en fonction des conditions de travail dans lesquelles se trouvent les femmes. Mmh. Et ensuite, bien sûr, il y a tous les aspects liés à la grossesse, avant et après, et les aspects liés aux menstruations et à la ménopause.
Vous dites donc que les femmes ne sont pas des travailleurs comme les autres, finalement. C'est un peu ça, l'idée. Qu'est-ce que ça signifie juridiquement et socialement ?
Cette expression vient d'une tribune qui sera bientôt publié, signé par un certain nombre d'acteurs et d'académiques, d'universitaires, c'est de mettre l'accent sur le fait qu'une prévention basée sur une approche masculine ne s'applique pas, a fortiori, pour des femmes avec une approche féminisée de la prévention.
Je voudrais qu'on parle des risques professionnels qui sont donc spécifiques aux femmes et qui restent aujourd'hui invisibles. Est-ce que vous pouvez nous, vous en avez parlé rapidement, mais nous dire quels sont finalement aujourd'hui ces risques professionnels spécifiques aux femmes qui restent invisibles ? Pourquoi est-ce que les statistiques sont insuffisantes ? Est-ce que c'est un problème de données, de culture, de formation des acteurs de la santé au travail ?
La santé des femmes est, au travail est d'autant plus invisible qu'elle ne ressort pas des grandes enquêtes nationales sur la santé au travail ou les conditions de travail. Et donc c'est un enjeu fort de faire ressortir les enjeux de santé au travail dans les grandes enquêtes statistiques, parce que grâce à ces grandes enquêtes statistiques, eh bien, on peut construire un régime juridique qui est plus adapté à la réalité. Et dans cette réalité, et cette réalité de l'invisibilité, il y a aussi la question des femmes qui exercent dans des milieux très masculins, qui subissent des violences ou qui sont rabaissées, humiliées parfois, hein, je pèse mes mots, avec des difficultés pour appréhender ces questions. Donc il est important de les rendre aussi visibles auprès des acteurs de la santé au travail, de former par exemple les médecins du travail, les représentants syndicaux ou les représentants du personnel à la question des femmes qui travaillent dans des milieux très masculins et qui peuvent être victimes de violences. Ce n'est pas forcément une question d'état d'esprit, c'est une question d'acculturation au fait que la santé au travail est aussi genrée. Elle est genrée parce qu'on a parlé des spécificités biologiques, des spécificités physiologiques, mais aussi il y a des spécificités sociales qu'on peut ajouter. C'est-à-dire que eh bien, beaucoup de femmes affrontent une charge mentale qui est supérieure à celle des hommes, entre la vie familiale et la vie professionnelle. Il y a beaucoup de femmes, ou beaucoup de métiers féminisés qui sont aussi des travailleurs de nuit, avec des aspects très spécifiques en termes de cancer. Il n'est plus à prouver aujourd'hui, au regard des grandes études qui ont été publiées, que le cancer du sein est largement favorisé par le travail de nuit. Et ensuite, on ne prend pas en compte, par exemple, ces spécificités du travail de nuit. On le considère comme un travail de jour. Nous ne sommes pas des êtres vivants qui sont de nuit, mais des êtres vivants qui sont conçus pour le jour. Donc ce n'est pas naturel. Déjà que le travail est artificiel parce qu'il est consubstantiel à l'homme, homme et femme, mais aussi parce que on nous fait travailler la nuit, par exemple dans les services hospitaliers, ou avec des horaires décalés pour tout ce qui est l'hygiène, etc. Et ce sont des secteurs fortement féminins, et donc les femmes sont fortement impactées par les risques de cancer.
Donc aujourd'hui, ça a été prouvé scientifiquement qu'effectivement le travail de nuit était nuisible, si je peux dire, en tout cas qu'il avait des répercussions sur la santé des femmes et des hommes, mais c'est vrai, comme vous le dites, c'est des secteurs qui sont souvent très féminisés.
Alors tout à fait, la santé des femmes et des hommes, il y a le cancer notamment colorectal pour les hommes, mais de nombreuses femmes font du travail de nuit parce qu'on est dans les secteurs des services, du service à la personne par exemple, des services médicaux, etc. Il faut bien penser qu'à un moment donné, c'est poser la question de reconnaître le travail de nuit comme un risque professionnel par lui-même. Ou de reconnaître les pathologies liées au travail de nuit, reconnues comme un risque professionnel, donc au sens du droit de la sécurité sociale, comme maladie professionnelle. Et sur ce point, il y a un pays qui a avancé, c'est le Danemark. Le Danemark reconnaît désormais, dans un système un peu simplifié de reconnaissance des maladies professionnelles, que les cancers du sein pour les femmes, les cancers colorectaux pour les hommes, sont des maladies professionnelles au regard du travail de nuit.
Vous dites que mieux protéger les femmes améliore aussi les normes finalement pour les hommes. Vous pouvez nous expliquer comment ça serait le cas ?
Oui, on boucle la boucle finalement. Parce que améliorer les conditions de travail pour les femmes, de facto, puisque les hommes travaillent dans le même milieu, c'est améliorer aussi les conditions de travail des hommes. On parlait des ports de charge tout à l'heure, on parlait également des droits au repos en fonction de l'état de santé ou des parcours de vie ou des aménagements des temps entre le temps professionnel et le temps personnel, les questions de hauteur etc. Donc forcément, si on améliore les conditions de travail des femmes et on prend en compte leurs spécificités, de facto ça peut améliorer aussi les conditions de travail des hommes. Donc tout le monde a y gagné, en fait.
Je voudrais qu'on parle d'un sujet dont on a beaucoup parlé ces dernières années, c'est le télétravail, qui s'est beaucoup développé, on le sait notamment avec, avec la crise du Covid. On l'a présenté comme un progrès social, beaucoup. Est-ce que c'est aussi simple que ça? Est-ce que pour vous, il a finalement révélé ou aggravé des inégalités en matière de santé féminine?
Alors, c'est une question complexe. C'est une avancée sociale dans l'aménagement des temps, avec plus de souplesse, peut-être une approche plus adaptée de la vie familiale par rapport à la vie professionnelle. C'est comme ça dans les faits. Parfois, ça peut être un slogan. Tous les slogans ne sont pas forcément justes. En réalité, télétravail a pu développer des situations d'isolement, plus de stress, notamment pour les femmes, où il faut gérer la vie familiale, la vie personnelle et le travail. Les questions de définition du télétravail, entre travail à distance et télétravail, est-ce que le télétravail, c'est télétravailler dans une pièce aménagée pour cela, ou c'est télétravailler dans sa cuisine, dans son salon, dans sa chambre?
Oui, et on manque un peu de réglementation autour de ça, en fait, non?
On manque pas de réglementation, on manque de précision.
Ok.
C'est un objet de convention, de contrat ou d'accord. Et donc ces accords méritent d'être aménagés. La loi est simplement supplétive, donc elle apporte un minimum de cadre légal, juridique ou de régulation. Et dans les conventions qui sont réalisées entre les partenaires sociaux et les employeurs, entre un employeur et un ou une salariée, il faut vraiment bien préciser les choses. Enfin, il y a un aspect social qu'on a vu qui est très fort, mais encore qui est plus fort pour les femmes en ce qui concerne la violence. C'est-à-dire que le télétravail a matérialisé l'aspect des violences conjugales et familiales et la porte dans la sphère du travail. Et donc la question des violences conjugales et familiales, qu'on appelle aussi violences domestiques dans certains textes juridiques, eh bien... lève ou soulève le voile de ces questions-là et du lien à faire avec le travail.
Donc, ce que vous dites, c'est que finalement, dans ce cas de figure, l'entreprise est concernée par ces violences domestiques. En tout cas, elle a un rôle à jouer.
Dès lors que l'entreprise a connaissance de violences d'un conjoint à l'égard d'une de ses salariées, elle devrait pouvoir agir. Il ne faut pas oublier que le 12 avril 2023, la France a ratifié une convention internationale de l'Organisation internationale du travail sur la violence et le harcèlement, qui reconnaît la violence domestique comme une question à traiter par l'employeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a la violence domestique au foyer lors du télétravail, comme la violence domestique peut s'inviter au port de l'entreprise, quand un conjoint attend sa conjointe à la sortie ou à l'entrée de l'entreprise, quand il l'appelle, la harcèle par mail ou par messagerie, ou même, de manière plus tragique, quand il pénètre sur le lieu de travail et s'attaque à sa conjointe. C'est l'affaire de différents faits divers, notamment au Canada, qui a fait évoluer ce pays sur cette question-là et qui a beaucoup poussé pour que l'OIT reconnaisse la violence domestique au travail et pour développer désormais des politiques également de prévention ou de sentinelle en ce qui concerne la violence domestique des salariés.
Cette convention dont vous parlez, c'est la convention C-190 de l'OIT, c'est bien ça. Est-ce que ça a changé quelque chose en France depuis que cette convention a été ratifiée? Est-ce que c'est encore un sujet qui est difficile à aborder?
C'est un sujet difficile à aborder. L'étude d'impact du Sénat pour préparer la loi d'autorisation de ratification de la convention est intéressante d'ailleurs à lire sur ce sujet, sur la question d'aménagement de dispositifs de protection ou d'éloignement de la part de l'employeur envers des salariés qui sont victimes de violences et dont il en a connaissance, évidemment. Cette convention a été ratifiée en avril 2023, donc, mais n'a pas fait l'objet d'une grande couverture médiatique. Pourtant, désormais, elle s'applique comme un texte supranational, comme n'importe quelle charte internationale opposable à la France. Donc elle est entrée dans notre système juridique et reconnaît, d'une part, les violences et le harcèlement au travail en raison du genre, c'est-à-dire fondé sur un motif de genre. Donc ça nous invite à revoir le périmètre des questions de harcèlement, notamment harcèlement moral, harcèlement sexuel, agissement sexiste, au prisme de la discrimination et du harcèlement discriminatoire. Mais elle reconnaît aussi la violence domestique, dont la femme est la première victime, une conjointe est la première victime, mais aussi pour être adoptée en faisant comprendre que une salariée qui est victime de violence domestique, eh bien, cette violence vient également perturber le fonctionnement de l'entreprise, le fonctionnement du collectif de travail, donc nécessairement pour la personne en elle-même et la protéger, mais aussi pour le bon fonctionnement de l'entreprise, eh bien, l'employeur doit tenir compte de ces questions. Ce qui veut dire que l'entreprise, aujourd'hui, on l'a vu avec la Covid, on le voit aussi avec les questions de violence, on le voit avec le télétravail, n'est plus simplement un lieu de production de richesses, c'est un lieu aussi où s'expriment des questions sociétales. Et donc on n'est plus à soigner forcément ou à protéger la santé physique, la santé mentale, mais il est nécessaire aussi de commencer à s'intéresser à la santé sociale, au travail.
Et ça, vous avez l'impression que c'est un changement de culture, de vision qui est en train de s'opérer ou qui est compliqué peut-être à faire pour les DRH, les dirigeants ?
Alors, je ne suis pas sociologue ou psychologue, j'observe au regard de mon œil de juriste, mais c'est plus qu'un changement de culture, c'est un changement de paradigme. Et tout changement de paradigme demande du temps. Donc je pense que la ratification de cette convention, son application, doit prendre le temps d'infuser. Comment une norme internationale infuse dans notre système national, finalement, ici, sur les questions de violence et de harcèlement de genre, sur les questions de violence domestique et du travail. Et donc il faut le temps que les acteurs de la santé et sécurité au travail, que les acteurs sociaux, que les acteurs publics et que le public lui-même, les citoyens, se saisissent de cette question-là. Donc il faut en parler régulièrement, il faut qu'un jour il y ait un contentieux sur cette question-là, qu'un avocat ou une avocate se dise bah, « tiens, je vais défendre telle affaire » en me fondant sur la convention C-190 qui a été ratifiée. Peut-être que le juge acceptera de l'appliquer, ainsi de suite.
Je crois que vous aviez une définition, c'est la définition du harcèlement, c'est ça, ou ce que vous me disiez ou...
Alors oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la convention C-190 sur la violence et le harcèlement au travail introduit une définition de la violence et du harcèlement du genre qui s'entend de la violence et du harcèlement visant une personne en raison de son sexe ou de son genre ou ayant un effet disproportionné sur les personnes d'un sexe ou d'un genre donné et comprend le harcèlement sexuel.
Ok, c'est ce que vous disiez, mais c'est vrai que c'est posé de manière très, très claire.
C'est posé de manière très claire. On est sur des motifs de discrimination, ce qui me permet d'ailleurs de faire un petit insert, c'est-à-dire de ne pas confondre égalité et discrimination. Hein, c'est-à-dire que l'égalité est une approche structurante, d'égalité des chances de tout individu, femme ou homme, dans une société. Alors que la discrimination va mobiliser des dispositifs juridiques pour lutter contre des préjugés et des idées reçues. Donc, vous voyez, ce n'est pas la même approche. Oui. Donc ici, on est vraiment sur la valorisation de la discrimination de genre et qui renvoie à des approches différentes des notions de harcèlement. Forcément, quand on parle de santé des femmes, on parle aussi beaucoup de harcèlement, forcément, malheureusement, parce que en France, nous avons un régime propre du harcèlement moral et du harcèlement sexuel, d'un point de vue juridique. Et dans les systèmes d'influence, ce qu'on appelle le common law, c'est-à-dire de langue anglaise essentiellement, eh bien, l'approche se fait par des grandes lois sur la discrimination ou la non-discrimination. Donc, vous prenez l'exemple du Royaume-Uni ou des États-Unis, le harcèlement sexuel, c'est une discrimination fondée sur le genre. Parce que, en raison de votre genre féminin, vous êtes traité différemment. Et on va parler de harcèlement sexuel. Et le terme anglais harassment renvoie à des notions de discrimination, alors que le harcèlement renvoie à des actes répétés en droit français.
Je voudrais qu'on parle, vous l'avez évoqué rapidement tout à l'heure, la santé reproductive, je voudrais qu'on en parle, parce que c'est vrai qu'on nous dit souvent que c'est quelque chose qui est assez intime, qui regarde pas finalement l'entreprise. Est-ce que selon vous, cette vision, elle est problématique, justement ?
Oui, elle est problématique. C'est toujours la question de faire une séparation entre santé au travail et santé personnelle. Alors, elle existe, hein, évidemment, puisqu'il y a une médecine du travail, il y a une médecine traitante ou familiale, mais certains aspects que l'on dit de santé personnelle entrent aussi dans le champ de la santé au travail. Donc, je vais prendre des exemples comme la dépression ou le suicide, qui sont multicausaux. L'employeur, très souvent, va se défendre en disant « c'est un problème de santé personnelle ». En raison de problèmes personnels, le travail n'a pas forcément d'influence dans le passage à l'acte ou la dépression. En ce qui concerne la santé reproductive, c'est la même chose. Certes, c'est très intime, certes, c'est de la santé personnelle, mais aussi, il y a les conditions de travail, des expositions à des produits toxiques, le stress causé par le travail, vont nuire aussi à la santé reproductive. Donc le travail a nécessairement un rôle dans la préservation de la santé reproductive des femmes à cet égard.
Aujourd'hui, le système de sécurité sociale, il est inadapté pour vous aux réalités féminines, justement, sur ces sujets ?
Alors, le système de sécurité sociale avance, aussi grâce aux droits de l'Union européenne et des directives sur les femmes... sur la grossesse des femmes, les femmes allaitantes et aussi sur le moment de pré-accouchement. Mais on avait essentiellement des dispositifs pensés pour des hommes, en France ou à l'étranger. Aujourd'hui, il y a des principes de prise en charge de la grossesse, de congé aussi, qui sont particulièrement développés en France. La difficulté, ce n'est pas la question de la prise en charge au titre du droit de la sécurité sociale en soi, en ce qui concerne la santé. Je mettrai l'accent sur l'aspect social, c'est-à-dire que c'est le traitement en pratique,
oui,
au travail, en ce qui concerne les conditions de travail, bien adapter le travail à la grossesse. Ce n'est pas parce que on ne montre pas physiquement, qu'une femme ne montre pas physiquement qu'elle est enceinte, qu'elle n'est pas enceinte.
Oui.
Ça commence avant de le voir réellement. Donc il faut bien comprendre qu'il peut y avoir des aménagements possibles dès un stade précoce parce qu'une femme peut ne pas être bien au début de sa grossesse, etc.
C'est le cas aussi pour... c'est un exemple qui est assez parlant sur les questions de PMA, par exemple, où il faut être hyper disponible. C'est compliqué d'organiser parfois son temps de travail. L'entreprise a un rôle à jouer là-dedans aussi, en laissant une certaine marge de manœuvre à ces femmes.
Exactement. Ça renvoie aussi aux questions de congés pour les menstruations ou pour les questions de ménopause, où là, nous n'avons pas un système de sécurité sociale et d'aménagement des conditions de travail adaptées. Et toutes ces questions-là renvoient effectivement à l'intime, renvoient au fait que ce sont des questions qui sont perçues comme taboues, et le fait de rendre ces questions taboues, ça peut rompre aussi l'égalité entre les hommes ou les femmes, ou introduire des motifs de discrimination. Alors que si on en parle, on met tout ça à plat, allons-y, on va aménager les conditions de travail de manière à retrouver une égalité entre les hommes et les femmes pour obtenir une même protection de la santé au travail. Les hommes, c'est beaucoup plus linéaire. Les femmes, ce n'est pas linéaire. Ce n'est pas parce que ce n'est pas linéaire pour les femmes qu'elles doivent en pâtir au bout du compte en termes de conditions de travail et même de droits sociaux.
Est-ce que vous auriez un conseil, parce que je pense au DRH, aux managers, aux dirigeants qui nous écouteraient, qui se disent, bah oui, mais concrètement, comment je peux faire pour accompagner ces femmes, par exemple pendant la grossesse, l'allaitement, etc. Je ne sais pas quoi mettre en place. Qu'est-ce que vous leur conseillez? Est-ce qu'il y a des choses faciles, concrètes, qui ne coûtent pas trop cher? C'est aussi ce qu'on dit souvent dans les politiques de parentalité, c'est que c'est très vite très cher. Mais j'imagine qu'il y a des aménagements assez simples à mettre en place.
Alors je pense que la première chose, je suis un juriste qui dialogue avec d'autres disciplines, donc c'est mon point de vue aussi au travers de mes lectures et de mes discussions avec des collègues en France ou à l'étranger. Premièrement, de se dire que des salariés en bonne santé, c'est des salariés qui sont très bénéfiques aussi pour l'entreprise. La deuxième chose, c'est de communiquer, déstigmatiser ces questions-là. Arriver, et la formation peut être importante sur ces questions-là, l'information et la formation. On peut peut-être faire entrer ces questions-là dans le nouveau passeport de prévention, par exemple, qui a été instauré récemment, de former aussi sur les questions propres à la santé au travail des femmes et à sa protection. Communiquer, déstigmatiser, c'est-à-dire enlever ce préjugé de dire que parce qu'elles ont ces conditions de santé, les femmes sont plus fragiles. Au contraire, tout ce qu'elles traversent montre qu'elles sont plus fortes quelque part. Donc c'est de déstigmatiser, enlever ces étiquettes de personnes fragiles qu'on peut apposer sur des sujets tels que celui-ci, que ce soit entre les hommes ou les femmes, ou entre les femmes également. Mais de ce qu'on peut voir, quand il existe des systèmes de congés menstruels, par exemple, dans certains pays, au Japon, ça existe depuis les années 40.
C'est assez peu utilisé.
On n'en parle pas, c'est très peu utilisé parce que les femmes ont peur de. Alors là, ce sont des études solides, d'être stigmatisées, d'être considérées comme des personnes à problème pour des problèmes de femmes. Hein, c'est très violent, oui. C'est de la violence. Donc, elles ne prennent pas leur congé. En Espagne, il vient d'être adopté un nouveau dispositif. Pour prendre en compte les situations qui sont postérieures à l'interruption de grossesse, à l'état de gestation avancée, sur les menstruations incapacitantes secondaires. Et donc le but ici, c'est de prendre en compte des situations qui sont considérées comme des situations ordinaires. Ce ne sont pas des situations extraordinaires. Donc c'est de banaliser ce sujet-là.
Oui. Hein?
Et de prendre des mesures qui tiennent compte des circonstances biologiques qui sont propres ou spécifiques aux différentes travailleuses. Et le but, c'est vraiment d'éliminer les biais cognitifs liés à ces questions-là et qui sont générés dans le milieu professionnel. Mais bon, pour l'instant, c'est tout nouveau. On va voir si ça va fonctionner. C'est encore assez restrictif. Il faut quand même noter qu'en France, il y a aussi des avancées. Hein, par exemple, les congés en cas de fausse couche. Mm-hmm. Hein. Ça, c'est une avancée très importante. Mmh. Les femmes étaient fortement pénalisées sur ces questions-là. Donc, il faut bien penser qu'il existe un congé en cas de fausse couche, parce que c'est un moment où il faut se retrouver et puis passer ce cap-là.
Vous parlez d'approche systémique de la santé des femmes. Concrètement, ça veut dire quoi, d'un point de vue de l'entreprise ?
Je pense que la santé au travail, aujourd'hui, est un système. C'est-à-dire c'est un système de santé et de travail. On ne peut pas protéger, prendre soin de la santé sans prendre soin du travail. On ne peut pas prendre soin du travail sans prendre soin de la santé. Donc c'est un système qui s'instaure. Donc pour prendre soin du travail et que le travail se passe bien, eh bien, faut prendre aussi compte de la santé des femmes.
Selon vous, c'est peut-être ma question de conclusion finalement, si on continue à penser la santé au travail comme quelque chose de neutre et d'universel, qu'est-ce qu'on risque en fait ?
Alors en soi, la santé au travail est universelle puisqu'on a droit à une bonne santé au travail.
Non genrée alors peut-être ?
Non genrée dans le sens où il y a une égalité dans l'aboutissement de la protection de la santé au travail.
Oui.
Et donc ici... je crois qu'on ne peut pas se passer du fait que nous sommes d'un certain point de vue différent, mais par nature. Et donc de prendre en compte cette nature-là dans les politiques de prévention pour justement universaliser la protection de la santé au travail. Mais aussi, c'est avoir une approche holistique. C'est-à-dire que ce système santé-travail dont je parlais tout à l'heure s'inscrit dans un environnement beaucoup plus large, qui est composé de sphères économiques, politiques, juridiques, numériques, démographiques, géopolitiques, etc., qui vont influencer le système santé-travail. Et donc, pour agir sur ce système santé-travail, il faut aussi travailler sur les autres sphères, notamment politiques et économiques, qui vont se traduire par des mesures juridiques aussi, sur le fait que eh bien, la santé des femmes au travail doit être considérée en même titre que la santé au travail de manière générale.
Merci beaucoup Loïc Lerouge, c'était passionnant de vous écouter et je pense que ça permet hein, aux gens qui nous écoutent, aux dirigeants, aux managers, de prendre un peu de hauteur sur ce sujet. On rappelle que le 28 avril prochain, c'est la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Pourquoi c'est important? En deux mots, qu'est-ce qui va se passer ce jour-là?
Alors ce jour-là, c'est la publication du rapport de l'Organisation internationale du travail sur la santé mentale au travail et les risques psychosociaux. C'est la thématique de cette année. Avec l'importance de prendre en compte les différences de genre également. Et c'est une journée mondiale qui existe pour rappeler combien il existe un droit fondamental de revenir chez soi en bonne santé.
Voilà, un message donc très important évidemment. Merci à vous d'avoir été avec nous et je vous souhaite une très bonne continuation, à bientôt.
Merci beaucoup, à bientôt.
Vous retrouverez plus d'informations sur le site de l'association Didam Donc. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode.